Nous vivons un christianisme aujourd'hui qui nous satisfait peut-être, mais vous et moi, parce que nous sommes des hommes et des femmes honnêtes, nous savons que nous sommes loin de ce que la Bible nous dit. Et lorsque nous savons que nous sommes loin de ce que la Bible nous dit et que nous ne changeons pas, c'est que nous avons un problème. Vous savez ce que la Bible dit par rapport à ceux et celles qui connaissent la vérité et qui ne la pratiquent pas. Je vous laisse deviner la suite parce que vous connaissez la Bible. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose que Dieu a mis en place, ou du moins que Christ a mis en place, pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions améliorer notre quotidien. Ça, c'est une erreur fondamentale. Il n'en est rien de tel dans la Bible. Le christianisme, c'est Dieu qui a vu la souffrance d'un monde qui était affaibli, qui était dans la souffrance du péché, qui était dans le malheur par rapport à l'esclavage que Satan lui affligeait. Et Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Le but pour lequel Christ est venu sur la terre, je ne le répéterai jamais assez, c'est pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Ce n'est pas d'abord pour nous donner les choses. Mais pourtant, toutes nos prières, tout ce que nous faisons dans notre vie chrétienne, c'est toujours pour demander à Dieu des choses. Et nous continuons comme ça. Moi, ça va faire 15 ans au mois de septembre que je me suis converti. Et quelquefois, il m'arrive de retomber encore dans ce genre de choses, en allant devant Dieu. Seigneur, Dieu dit, mon enfant, grandis, avance. Parce que Dieu a des priorités pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que j'aimerais, avec la grâce de Dieu, pouvoir méditer avec vous ce matin. Quelles sont les priorités de Christ pour nous qui sommes ses disciples? Quelles sont les priorités de Christ, frères et sœurs? Dans la vie, tout le monde, autant que nous sommes présents en ce lieu ce matin, nous fonctionnons tous, personne ne peut lever le doigt ici pour me dire « je n'ai pas des priorités ». C'est faux, tous. Même le bébé qui est en train de pleurer là-bas a des priorités. Tout le monde fonctionne comme ça. Nous sommes tous faits de la même manière. On a des priorités. Et nos priorités nous définissent en réalité. Et ce matin, pour aborder le premier point, j'aimerais qu'on puisse lire quelques paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Voici ce que Jésus nous dit. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on poursuit. Vous connaissez le chapitre 6 de Matthieu. Je vais à la fin. Voici ce que Jésus dit. Il dit toutes ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je n'ai pas voulu vous mettre tout le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Vous savez que ces paroles que nous venons de lire sont inscrites dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans le chapitre 5, Jésus nous parle de tout ce qui est béatitude. Et dans le chapitre 6, Jésus va s'arrêter et il va nous parler cœur à cœur. Il va nous parler de ce qui va définir nos priorités de façon globale. Et j'aimerais aborder un premier point avec vous, c'est celui-ci, c'est que nos priorités sont déterminées par nos inquiétudes et nos préoccupations. Nos priorités sont déterminées par nos inquiétudes et nos préoccupations. C'est ce qui nous préoccupe, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous mettons en premier. Oui ou non? Bon, vous n'êtes pas d'accord. Ouais. Dans le chapitre 6, il y a trois grandes parties. Principalement, trois grandes parties. Dans la première partie du chapitre 6, Jésus parle des dons que l'on peut faire. Il parle des dons que l'on peut faire. Et en parlant des dons, il souligne la motivation, l'attitude avec laquelle nous faisons notre don. C'est pour cette raison qu'il dira, lorsqu'une main donne, il vaut mieux que l'autre ne sache pas ce que tu donnes. C'est dans le chapitre 6. Là, il commence avec cela, en parlant des dons que nous pouvons faire. Ensuite, Jésus va parler de la prière. C'est là qu'il va enseigner le Notre Père, du moins aux disciples. Il va parler de la prière et il va dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment se mettre debout dans la ville, lever les mains vers le ciel pour montrer à tous qu'ils prient, qu'ils sont bons. Il dit, ne soyez pas comme ça. Il dit, lorsque vous priez, quand tu pries, entre dans ton lieu secret. Et ton Père qui t'y attend, t'écoute et il te le rendra. Jésus va aborder également le jeûne. Aïe, aïe. Le médecin a dit, il ne faut jamais sauter de repas. Ce n'est pas bon pour la santé. Ah non, il ne faut jamais. Jésus nous parle, il dit, quand vous jeûnez, n'ayez pas l'air triste. Ne faites pas ce qu'ils disent. Quand on jeûne, c'est une affaire d'un enfant de Dieu avec son père. Ne faites pas en sorte que les gens se disent, « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, mais tu sais, je suis en train de jeûner. » Tu ne jeûnes pas. Tu es en train de dire à tout le monde que tu jeûnes. Ça, ce n'est pas le jeûne, ça. Quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin de dire à personne. C'est entre Dieu et toi. Il dit, « Non, il ne faut pas que vous soyez comme ça. » Il dit, « Quand tu jeûnes, fais comme d'habitude. Parfume-toi, habille-toi correctement, que personne ne sache que tu es dans la recherche et de la présence de Dieu dans la recherche de la communion avec ton Père. » Jésus nous parle de ces choses. Il en est de même pour la parole de Dieu. Et ensuite, Jésus va parler des inquiétudes. Et les inquiétudes, Jésus va les aborder comment? Sous la forme des besoins que nous avons chaque jour. Il va parler de manger, il va parler de se vêtir. Il va dire, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne, mais ils sont nourris. Et il va parler des fleurs des champs, les lys, qui sont merveilleuses. Et il va dire, regardez. Il dit, regardez. 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 C'est pas beau, ça. Dieu, Jésus nous parle de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce sont ces choses qui éveillent, qui font naître en nous des préoccupations, des inquiétudes. Jésus dira, il va aborder aussi le rapport que nous allons avoir à l'argent et au matériel. Il va dire, attention, personne ne peut servir deux maîtres. Il y a toujours une hiérarchie. Et il dira, personne ne peut servir Dieu et le Dieu de l'argent, mammon. Et Jésus va dire, même si vous vous inquiétez pour toutes ces choses ou pour votre vie, est-ce qu'il y a une seule de vos inquiétudes qui pourrait ajouter une longueur à votre vie sur la terre? Et ensuite, Jésus va venir pour conclure. Ça, c'est la conclusion. Quand il dit toutes ces choses, il dit les choses dont il parle, car toutes ces choses, c'est ce que je viens de vous énumérer là. Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Vous avez déjà vu un enfant qui vit dans la rue? Il n'y en a pas en France. Mais si il y en a qui ont eu l'occasion de voyager dans des pays où il y a des enfants dans la rue, vous allez vous rendre compte qu'ils sont tout le temps agités parce qu'ils ne savent pas où manger, ils ne savent pas quoi manger, ils vont à gauche, à droite, ils vont à la rencontre de n'importe qui parce que leur désir, c'est juste d'avoir quelque chose pour pouvoir manger. Dieu dit, ne soyez pas comme ça. Ce sont les païens qui sont comme ça parce qu'ils n'ont pas de père. Eux, ils vont s'agiter. Ils vont vouloir rechercher ces choses à tout prix. Ils vont faire de ces choses leur priorité. Et quand ils n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en inquiètent. C'est leur préoccupation, c'est d'avoir ces choses. Donc Jésus va nous dire même que, normalement, notre façon de prier, c'est-à-dire la prière, ou bien même de donner déjà, notre façon de donner, elle est liée à quoi? À nos priorités. Si donner ton offrande n'est pas une priorité, tu ne la donneras pas. Tu trouveras toujours le moyen de mettre quelque chose au-dessus de ça. Tu vas dire, mais oui, mais moi j'ai besoin de ça. Donc l'offrande, Dieu va comprendre. Hein? Parce que Dieu comprend toujours, vous avez remarqué. Hein? Oh, mais Dieu comprend. Il va comprendre, Dieu. Dieu est patient, il est amour. Le temps que nous accordons à la prière, le temps que nous pouvons passer dans le jeûne. Jésus dit tout ça doit faire partie de nos priorités. La méditation de la parole de Dieu doit faire partie de nos priorités. C'est ce que Jésus dit dès le début du chapitre. Et ensuite, il nous prévient de faire attention au rapport que nous avons avec l'argent et les biens de ce monde. Est-ce que c'est parce que Jésus était contre l'argent? Souvent les gens se disent, ah oui, parce que les gens ont dit, ah mais Jésus a dit dans le chapitre 5, heureux les pauvres. Oh oui, mais moi j'aime bien l'évangéliste qui ajoute les pauvres en esprit. Mais parce que Dieu n'est pas pauvre. Je vous en prie, Dieu n'est pas pauvre. Il ne peut pas être pauvre et être en même temps le Dieu de l'or et de l'argent. Dieu n'est pas pauvre. Donc quand il dit ça, il dit attention. L'argent que tu as ne doit pas occuper ma place. Les biens que tu as ne doivent pas occuper ma place. Frères et sœurs, ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un et tu m'écoutes et tu sais que Dieu te parle. Le rapport que tu as avec l'argent, le rapport que tu as avec les biens matériels, c'est ça qui te persécute dans ta propre vie. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Je te parle ce matin et tu sais que je suis en train de te parler. Ou du moins que Dieu est en train de te parler clairement. Dieu n'est pas contre l'argent, il n'est pas contre les biens matériels, c'est lui qui nous les donne. Nous le verrons plus tard. Donc nos priorités vont être déterminées, comme je l'ai dit, par ce qui nous préoccupe. Si la présence de Dieu, la communion avec Dieu, c'est ça qui nous préoccupe, ça va faire partie de nos priorités. Si nos priorités, c'est d'être un serviteur, une servante de l'Éternel, au milieu du peuple de Dieu, ça va être notre priorité. Mais si ta priorité, c'est d'aller jouer au jeu de société avec les païens, ce sera ta priorité. Mais Dieu ne sera pas avec toi. Si ta priorité, c'est de passer plus de temps dans les manifestations à l'extérieur, plutôt que de louer ton Dieu au milieu de l'assemblée de justes, ça fera partie de tes priorités, mais Dieu te dit, ce ne sont pas les priorités que j'ai voulu pour toi. Combien de fois on voit parmi le peuple de Dieu des gens qui disent, ah ben oui, mais moi je ne peux pas aller à cette réunion par exemple. Personne ne vous contraint. Mais ne trouvez pas d'excuses de grâce. Si vous ne voulez pas venir, ne trouvez pas d'excuses. Oh mais non, mais je ne peux pas y aller là parce que je dois faire une sortie avec, je ne sais pas, les gens de l'école de mon enfant. Est-ce qu'ils t'ont obligé? Ils t'ont mis la corde au cou? Ils ne t'ont pas obligé. C'est toi qui fais ton choix. La vie est une question de priorité, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, frères et sœurs. C'est une question de priorité. Personne n'est venu ici avec la corde au cou ce matin. Personne ne vous a traîné ici. Vous êtes venu de vous-même. Parce que j'espère, pour chacun d'entre nous, que nous sommes heureux d'être là ce matin. Que nous venons parce que c'est là que nous nous sentons le mieux ce matin. J'espère que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Dieu nous interpelle ce matin, frères et sœurs. Dieu, la Bible nous dit, il faut que nous rachetions le temps. Combien de fois les gens disent, j'ai pas le temps, même si Dieu rallongeait le jour de 24 heures encore. On avait une journée de 48 heures, on dirait toujours, on n'a pas le temps. Pourquoi? Les gens qui se plaignent du temps, c'est des gens qui n'ont pas de priorités ou qui ne les ont pas très bien définies. Quand tes priorités sont clairement définies, tu sais ce qui vient en premier. Frères et sœurs, Jésus nous parle de ces choses. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par... Ça, c'est la priorité de Dieu, c'est donc quoi? C'est son règne et sa justice. Toutes les choses, c'est ce dont nous avons besoin pour manger, pour nous vêtir, pour vivre. Toutes ces choses, frères et sœurs, elles sont nécessaires. Elles sont utiles. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous donne ces choses. Mais Dieu nous dit, attention, ne faites pas de la bénédiction votre Dieu. Je ne vous bénis pas pour que vous me détrôniez, pour que vous me mettiez à la seconde, à la troisième ou à n'importe quelle autre place. Dieu, la seule place qui sied pour lui et qui lui plaît et qu'il mérite, c'est la première place. Dès lors qu'on met Dieu à la deuxième place, il n'est plus classé. Dieu ne peut être classé qu'à la première. Frères et sœurs, regardez un peu dans d'autres versions de la Bible. Regardez ce que nous dit la version Semeur. Elle nous dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu nous dit quoi? Il dit, quand tu t'occupes de mon royaume et de ma justice, toutes ces choses-là, elles font quoi? Elles t'accompagnent, c'est ton bonus. Tu n'as pas besoin de crier, frères et sœurs. Regardez dans la Bible. Est-ce que vous avez vu Paul, Pierre, Jacques, Jean prier pour qu'ils aient à manger, pour qu'ils aient le travail? Pourquoi, frères et sœurs? Non, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Et parce que Dieu est fidèle, il accompagnait ses serviteurs de toutes ces choses dont il nous parle. Il est fidèle. Tu n'as pas besoin de ça, frères et sœurs. Les païens ne prient pas, mais ils ont ces choses. Frères et sœurs, soyons un peu intelligents ce matin, parce que je sais que vous êtes doués. Ils ne prient pas. C'est ce que Jésus nous dit, ils ne prient pas. Les oiseaux ne prient pas, les fleurs ne prient pas. La fleur sait seulement que quand elle est mise sous terre, elle doit pousser parce que c'est ce que Dieu lui a ordonné quand il l'a créée. C'est tout. C'est la même chose que David avait comprise en son temps. Il a dit, mais j'ai lutté pendant longtemps, mais j'ai compris une chose, le secret avec Dieu, c'est que je dois faire de l'Éternel mes délices et il me donnera tout ce que mon cœur désire. Amen. Je n'ai pas besoin de m'efforcer, je fais de lui mes délices. Je m'attache à Dieu, je m'attache à ce que lui aime, je fais ce que lui aime. En ce moment-là, et il me fait suivre de sa bénédiction. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas, on a inversé. Vous savez, quand je préparais ce message, Dieu me disait, vous êtes des chrétiens qui marchent la tête en bas. Vous avez inversé, vous avez la tête en bas, les pieds en l'air. Vous voulez d'abord que je vous donne les choses, c'est ça qui vous intéresse. Mon règne ne vous intéresse pas. Mon œuvre ne vous intéresse pas. Les gens qui meurent au dehors ne vous intéressent pas. Vous êtes juste intéressés par votre petit confort. Et quand je parle ainsi, je m'inclus dedans, de grâce. Frères et sœurs, Jésus a bien défini les priorités. Il a dit, c'est d'abord le règne de Dieu que vous allez chercher en premier. Sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et dans cette version, l'autre dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Frères et sœurs, nous devons être honnêtes devant Dieu. Pour que Dieu nous change, nous avons un devoir d'honnêteté devant lui. Dès lors qu'on fait semblant devant Dieu, lui aussi nous regarde. Mais quand on choisit d'être honnête devant Dieu, Dieu nous change, il nous transforme, il nous amène encore plus loin. Nous allons voir maintenant quelques illustrations dans la Bible. Et nous allons lire tout de suite un texte dans le premier livre des Rois. Il est question de Salomon. Vous connaissez Salomon, c'est le roi qui a remplacé son père David sur le trône d'Israël. Et nul besoin de vous rappeler les circonstances dans lesquelles Salomon a accédé au trône. Il y a eu une lutte, il y a eu un de ses demi-frères, hein, c'est ce qu'on dit, demi-frère qui voulait, lui, vraiment accéder au trône de force, qui avait tout fait. Et là, le prophète Nathan est venu voir la mère de Salomon pour dire, il y a quelque chose qui se passe, parce que Nathan certainement avait reçu de la part de Dieu que le successeur de David serait Salomon. Et là donc, David va justement, va oindre, va introniser son fils. Et Salomon, Dieu va lui apparaître au début, justement, de sa royauté. Dieu va lui apparaître. Et c'est étonnant parce que Dieu va lui apparaître pour lui poser, en fait, pour lui faire une demande. Il va dire à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » C'est quand même extraordinaire, ça. Moi, ça me fait toujours réfléchir. Je me dis, mais si c'était à moi qu'on avait demandé ça. Oh là 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 là. La liste. Mon bras aurait été trop petit. Je dis, tu es sûr, Seigneur, que tu veux que je te demande ce que je veux? Oui, Seigneur. Oh là 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 là. Je ne vous dis pas ce que je lui ai demandé, mais vous avez le droit d'imagination. Et voici la réponse que Salomon va faire à Dieu. Il va dire, maintenant l'Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Regardez la prière de Salomon, au moins la réponse à la demande que Dieu lui fait. Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Il est au début de son mandat royal. Vous imaginez un peu toutes les choses qui ont dû passer par l'esprit de Salomon. Toutes les choses qu'il a dû caresser depuis sa tendre enfance, les choses qu'il voulait alors qu'il voyait son père David sur le trône, alors qu'il regardait ses frères, ses demi-frères, il se disait, il avait plein de choses, comme tous les enfants, on a tous des rêves, on a tous envie de réaliser des choses. Et là, Dieu va dire à Salomon, c'est un risque que Dieu prend. Heureusement que Salomon, ce n'est pas Ulrich, parce que je crois que Dieu aurait regretté d'avoir posé la question. D'avoir fait la demande. Parce que je lui aurais fait une liste longue comme la Loire. Mais Salomon dit à Dieu, Seigneur, tu viens de me confier ton peuple. Je n'ai pas d'expérience. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'accordes d'avoir un cœur qui écoute pour pouvoir juger ton peuple, pour pouvoir justement distinguer le bien du mal. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Regardons dans ce qui suit ce que Dieu va lui répondre. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Waouh! Écoutez bien, et Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni longue vie, nous l'avons vu, hein, Jésus nous l'a dit, non? Plusieurs millénaires plus tard, oui ou non? Que ce n'est pas ton inquiétude qui va rallonger ta vie, ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la... » Et voici ce que Dieu va lui dire. « Je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. » Regardez maintenant ce que Dieu dit, frères et sœurs. Mon message est terminé normalement. C'est fini. Il dit quoi? Je te donnerai en... En outre, ça veut dire quoi en français? En plus, oui ou non? C'est pas ça ce que Jésus a dit des millénaires plus tard. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Regardez le secret. Vous comprenez pourquoi maintenant Jésus fait le parallèle de Salomon dans Matthieu 6. Il dit même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme aucune des fleurs, les lys. Oh, Sandara Braya. Frères et sœurs, vous savez, remettons-nous en question pour vivre un christianisme biblique, évangélique. Pas un christianisme culturel, traditionnel, non. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Salomon a dit à Dieu, j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de l'intelligence pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour pouvoir aider le peuple. Parce que dès lors que je suis un bon roi pour le peuple que tu m'as confié, en ce moment-là, tous les peuples alentour diront quoi de Dieu? Qu'il est bon ou qu'il est mauvais? Qu'il est un Dieu à suivre ou qu'il est un Dieu à ne pas suivre? C'est cela le but. Dieu lui dit, vu que c'est cela que tu me demandes, Salomon, cela me plaît énormément. Pourquoi Dieu lui dit, tu n'as pas demandé ni longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis? Parce que le père de Salomon, il embêtait Dieu avec l'histoire de ses ennemis, oui ou non? David tout le temps, quand ce n'était pas les dents, je ne sais pas autre chose. Je ne sais pas si tu avais contre les dents, mais bon. Tout le temps, David, il voulait demander à Dieu, occupe-toi de mes ennemis. Mais Salomon dit, moi, ce ne sont pas d'abord mes ennemis. Ce n'est pas d'abord le fait d'être riche qui m'intéresse. Ce n'est pas d'abord le fait d'avoir de la gloire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, Seigneur, c'est ton royaume, c'est ton règne. Que ton règne soit établi sur ce peuple. Que les gens voient que c'est le peuple de Dieu. En ce moment-là, Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu m'auras donné ce dont j'ai besoin pour pouvoir être un roi serviteur. C'est cela, frères et sœurs. Dieu lui dit, je vais te donner en outre. Salomon, je vais te donner ce que tu ne m'as pas demandé. C'est cela la priorité, c'est la loi de l'Éternel, c'est la loi de Dieu qui est comme ça. Quand tu cherches d'abord le règne de Dieu dans ta vie, quand tu cherches le règne de Dieu dans ceux et celles qui t'entourent, Dieu te dit, quand c'est ma justice qui te préoccupe, qui est ta priorité, en ce moment-là, les choses dont tu as besoin, elles font quoi? Elles te suivent. C'est ce qu'il dit à Salomon. Il dit, je vais te donner ce que tu ne m'as pas demandé. Des richesses, la gloire, comme aucun des rois. La Bible nous dit que Salomon était devenu tellement riche qu'il avait fait d'un bien économique quelque chose de banal. Vous savez ce qui définit un bien économique? Hein? C'est sa rareté. La rareté d'un bien, c'est ce qui définit un bien économique. Mais l'argent, Salomon a fait de l'argent, dit qu'il a fait de l'argent des pierres, des cailloux. Il était tellement devenu riche que l'argent pour lui n'était plus rien. Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Pourquoi? Parce que Salomon était d'abord préoccupé par les choses du royaume, par le règne de Dieu, par la justice de Dieu. Il dit, Seigneur, je veux juger justement comme toi tu es juste. Seigneur, je veux vraiment donner des sentences qui soient à la gloire de ton nom pour que le monde sache que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. En ce moment-là, ils vont s'interroger et quand tu veux toucher leur cœur, tu pourras les toucher parce qu'ils voient comment ton peuple vit. Mes frères et sœurs, à quoi ça sert d'être un chrétien cochon? Ça ne sert à rien. Tu es là, tu viens au culte, hein, pour parler dans un terme beaucoup plus religieux. Tu viens aux offices, tu viens aux réunions et quand tu sors d'ici, tu as un mode de vie qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, ce que tu sembles montrer aux frères et aux sœurs dans ce lieu. Non, frères et sœurs. Dieu dit, est-ce que tu poursuis son règne et sa justice? Salomon. Salomon était attaché à Dieu. Regardons l'histoire d'une autre femme. Au moins d'une femme. On va lire dans le livre d'Esther. Vous connaissez dans quelles circonstances Esther a accédé justement à la royauté, enfin elle est devenue reine du moins. C'est quand même des circonstances bizarres. Hein? Parce que le roi où Esther était, normalement, étrangère, elle était esclave, on va dire. Elle était en captivité, elle était esclave, elle était orpheline. Elle a été élevée par son oncle Mardoché. Et alors que le roi va organiser un festin pour tout son royaume, son empire même, il va inviter tous les princes. Alors que la reine Vasti va être invitée, elle va refuser, elle va faire sa fête de son côté. Elle va refuser de se présenter devant le roi. Elle va foutre la honte au roi. Le roi va être totalement honteux qu'il va décider. Il va dire, ben voilà, il y a un édit du roi maintenant. On va chercher toutes les belles femmes. Que celle qui se sent belle ce matin se lève à sa place. Ben voilà, personne. C'est dommage, hein? Je voulais faire un casting, mais bon. Et c'est comme ça qu'on va choisir les plus belles femmes dans l'empire du roi Assuérus. Et donc, Esther va faire partie de ces jeunes femmes. Et c'est elle, je vous passe les détails, elle va être choisie finalement. Et une fois accédée au trône, imaginez un peu dans la tête d'Esther. Elle qui est venue en captivité, elle qui est orpheline, elle qui n'a pas vraiment connu ses parents. Imaginez-vous un peu dans sa tête, elle qui est devenue reine. Qu'est-ce qu'elle doit se dire? Elle doit se dire, oh là là, j'ai pris une revanche sur ma vie. Enfin, je suis arrivée, moi qui n'étais rien. Regardez, aujourd'hui, je suis reine, qui plus est, dans un royaume étranger. Et là, il y a son oncle Mardoché, par rapport à une autre décision qui avait été prise de se prosterner devant un homme appelé Hanan, cet homme, l'oncle d'Esther Mardoché, va refuser de se prosterner. Et ils vont faire des investigations, ils vont trouver que ce Mardoché-là fait partie d'un peuple qu'on appelle le peuple juif. Et pris dans sa colère, cet homme devant qui tout le monde devait se prosterner, alors que Mardoché ne le faisait pas, va demander au roi que le peuple dont fait partie Mardoché soit exterminé, donc le peuple juif. Mais Esther, elle est arrivée, elle est sur son trône avec le roi. Et puis alors là, Mardoché va envoyer un acte pour justement rapporter à Esther l'édit du roi comme quoi le peuple juif doit être exterminé. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre, en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. » Esther dit, ben non, mais écoute, Mardoché, moi je suis d'accord avec tout ce que tu me demandes. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, je n'ai pas accès au roi. Je ne peux pas. Ça ne se passe pas comme ça. Si je vais de mon plein gré, la sentence pourrait être la mort. J'ai beau être la reine, Esther. Et regardez la réponse que Mardoché va lui faire. Donc, Attac revient vers Mardoché et lui fait le rapport de ce qu'Esther a dit. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre. Ne t'imagine pas, c'est quand même dur, écoutez, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardoché est en train de dire à Esther, attention, maintenant que tu es arrivé, maintenant que tu es célébré, maintenant que tu as été intronisé comme reine, attention, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qu'on fait partie d'un peuple dont le Dieu est Yahweh, n'oublie pas qu'on a beau être justement en captivité, il faut que tu saches que notre Dieu c'est toujours Yahweh. Et maintenant regarde, on veut détruire le peuple de Yahweh. Est-ce que tu vas prendre position, oui ou non? Est-ce que tu vas prendre position pour le royaume de Dieu? Et beaucoup parfois se taisent. On ne dit pas qu'il faut rentrer dans le conflit avec tout le monde. Mes frères et sœurs, quand on dit du mal de Jésus, défendez Jésus. N'insultez pas les gens. Quand les gens disent du mal de Jésus, défendez-le avec amour, avec conviction et douceur. Esther dit, ah ben non, elle se trouve Ce n'est pas une excuse, hein? C'est la réalité. Mais Mardoché lui dit, non, il faut que tu réfléchisses. Tu fais partie de ce peuple. Autrement dit, quand il va découvrir le roi, que toi, si tu es juif, eh bien, tu vas passer. Tu vas y passer. Qu'est-ce que tu crois? Tu es juive. Et là, Mardoché termine en disant, peut-être que tu as accédé justement à la royauté pour justement intervenir dans cette circonstance. Esther semblait oubliée. Et quelquefois, ça nous arrive, frères et sœurs. Lorsque nous demandons même des choses à Dieu, que Dieu nous les donne, on oublie même que c'est Dieu qui nous les a données. On oublie même que c'est la bénédiction de Dieu qui agit dans notre vie. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Esther a failli tomber dans ce piège. Mais Mardoché lui a rappelé, vous savez ce qu'il s'est passé par la suite. Esther a demandé le soutien. Elle est revenue à elle-même. Elle a dit à Mardoché, bah, écoute, convoque tout le peuple et on va faire un jeûne. Un jeûne de 3 jours. Ne mangez pas, ne buvez pas. Moi-même, Esther, avec mes servantes, nous allons faire le même jeûne. Et à l'issue des 3 jours de jeûne, je me présenterai devant le roi, même si je n'ai pas le droit en ce moment de me présenter devant lui. Mais à l'issue de ce jeûne, j'irai devant qui? Devant le roi. Et nous savons, nous connaissons la suite de l'histoire. Frères et sœurs, nous ne devons pas oublier. Vous connaissez cette histoire dans le Nouveau Testament d'un jeune homme qui est venu voir Jésus et qui a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et vous savez que Jésus va procéder à un échange avec ce jeune homme dont on dit dans la Bible que c'était un jeune homme riche. Jésus va avoir un échange avec lui. Et à la fin, voici ce que Jésus va lui dire. Jésus ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. » Ah. Là, il se disait, « Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut acheter quelque chose? » Hein, vous voyez. « Vends tout ce que tu as. Hein? Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les... Puis viens et suis-moi. » Et la Bible nous dit, « Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très... riche. » Que s'est-il passé? Est-ce que Jésus est contre les riches? Non, c'est une mauvaise interprétation si on voit les choses de cette manière. Jésus n'est pas contre les riches. Jésus a le discernement que chez ce jeune homme, son problème, c'est que Dieu est, maman est au-dessus de quoi? De tout. Maman était au-dessus de tout dans sa vie. C'est ce que Jésus lui a demandé. Il lui a dit, tu veux hériter la vie éternelle? Tu es sûr? C'est ce que tu veux? Oui. C'est ce que tu veux? Oui. Mais écoute, il va falloir que tu inverses la tendance. Il faut que tu inverses la tendance. Il faut que tu mettes Dieu à la première place. Et pour toi, le moyen de montrer que Dieu est la première place dans ta vie, il faut que tout ce qui occupait la première place, tu puisses t'en débarrasser. Et quand Jésus lui a dit ça, il a dit, la Bible nous dit non. Il a dit, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas liquider tout ce que j'ai comme bien. Je suis tellement attaché à cela. Je paraphrase, vous comprenez. Je suis tellement attaché à cela. Moi, je ne veux pas liquider tous mes biens. Et il est parti. Il a préféré garder ses biens plutôt que d'accéder justement à ce royaume de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de l'apôtre Paul. Voici ce que Paul dit aux Philippiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême. Quel est le bien suprême qu'il a découvert? C'est la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est de trouver en lui non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, il parle de sa condition. Il n'avait peut-être pas de biens matériels, mais il était fier d'être un intellectuel. Il était fier d'être un pharisien. Il était tellement fier qu'avant de se convertir, il était zélé d'aller auprès des responsables religieux pour leur demander d'aller persécuter les chrétiens à Damas. Il en était tellement fier. Il était content de ce qu'il avait pris. Il était passé entre les mains d'un des meilleurs maîtres, Gamaliel. Il a été à la bonne école. Il était zélé. Et à cause de cela, lui-même dit, je persécutais l'Église. Il était loin de Dieu. Il était honnête. Il était certain dans sa voie, mais il était loin de Dieu. Et il dit, mais désormais, depuis que j'ai rencontré Christ, en fait, toutes ces choses qui avaient de la valeur pour moi, toutes ces choses auxquelles j'étais accroché, ces choses ne valent plus rien. Elles sont désormais une perte pour moi. Parce que j'ai découvert le bien suprême, c'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. J'ai renoncé à tout, dira Paul. Pourquoi? Il dit, parce que si je ne renonce pas, si je ne mets pas Dieu en premier, si je ne mets pas Dieu à la première place, c'est-à-dire son règne, sa justice, j'aurai beau faire quoi que ce soit dans ma vie chrétienne, je vais trimer. Mais si au contraire, si je renonce, je vais faire quoi? Je vais expérimenter la puissance de la résurrection. Je vais expérimenter la puissance de Dieu. Frères et sœurs, quelquefois nous sommes si faibles dans notre vie chrétienne parce que nous ne voulons pas lâcher prise, parce que nous ne voulons pas laisser Dieu à la première place, parce que nous avons encore des béquilles, des choses sur lesquelles nous nous appuyons pour vivre, alors que Dieu dit non, faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas, ne vous amassez pas des biens qui vont finir par vous causer des problèmes, mais attachez-vous au règne de Dieu, attachez-vous à la justice de Dieu, c'est alors que vous allez expérimenter la puissance de la résurrection, vous allez expérimenter la puissance de Dieu, c'est alors que les paroles que Jésus a dites aux 70 disciples, comme quoi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Si on est honnête, personne ne marche sur les serpents et les scorpions. Les choses de Satan, personne. Satan fait peur à la plupart d'entre vous. Beaucoup ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ils ont peur. Le matériel, l'argent, ils sont là. Maintenant qu'on peut faire les choses sur le smartphone, ils vérifient leur compte tous les jours. Certains, c'est toutes les heures. Parce que leur sécurité est là-dedans. Mais Dieu dit, votre sécurité ne doit pas se trouver là-dedans. Votre sécurité doit être se trouver dans le fait de rechercher son règne, son royaume. Son royaume, frères et sœurs. Paul dit, j'ai renoncé à tout pour expérimenter la puissance de la résurrection. Et j'accepte de m'unir à Christ dans ses souffrances. Même quand on me rejette, même quand on me méprise, même quand on me raille, même quand on me crache dessus, j'accepte. Pourquoi? Parce que c'est mon bien suprême. Si lui acceptait qu'on crache sur lui, qu'on le raille, qu'on se moque de lui, alors que lui était le Fils de Dieu, combien à plus forte raison moi, qui suis son serviteur, dont Christ a dit expressément, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ça ne sert à rien de prier. Tu ne changeras pas. La prière ne change personne. Ça ne sert à rien. Tu sais que tu dois te soumettre simplement à ce que Dieu dit dans sa parole. Quand il te dit change, change mon frère, change ma soeur. Nous tous on passe par là, qu'on le veut. Il n'y a pas de pasteur devant Dieu. Dieu n'a rien à faire des pasteurs. Il n'a rien à faire. Tu peux faire tous les miracles. Aucun homme ne peut faire les miracles sans Dieu. Alors Dieu va avoir peur d'un homme à qui, par qui il travaille pour faire des miracles? Non, frères et sœurs. Dieu n'a peur de personne. Quelle que soit la richesse, quel que soit tout ce qu'on peut avoir sur la terre, Dieu n'a peur de personne. Parce qu'il sait une chose. Il sait que tout ce qu'il y a sur la terre appartient à qui? Alors, il n'a pas peur. Quand Dieu veut parler à Ulrich, c'est quoi? C'est un grain de sable. C'est quelqu'un d'insignifiant. Dieu me parle, si je n'écoute pas, il prend sa sanction. C'est pas parce que je prêche là, je ne vaux rien devant Dieu, je ne suis rien. Je ne suis rien devant Dieu. C'est quoi la prédication? Vous aussi, vous pouvez prêcher. C'est une grâce. Frères et sœurs, je suis chrétien. Mon identité, ce n'est pas pasteur. Mon identité, c'est enfant de Dieu. C'est ça, mon identité, frères et sœurs. Nous tous, nous sommes logés à la même enseigne. Il n'y a personne qui échappe. Dieu nous rappelle ce matin que les priorités, c'est son royaume, son règne. Ce n'est pas d'abord les choses que nous avons envie. Frères et sœurs, on va conclure. Voici le texte que Luc fait, nous donne dans Actes. Il nous dit dans mon premier livre, donc dans son évangile, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisi comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla de quoi? Du règne de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus ne leur parlait que du royaume, du règne de Dieu. Il n'a pas dit, Pierre, viens, assieds-toi. Je vais te dire comment tu vas faire pour devenir riche. Je vais te dire comment tu vas faire pour avoir un chalet à Gethsémané, ou un chalet à Capernaum, ou un chalet je ne sais où encore, au bord de la mer de Galilée. Comme ça, quand tu es fatigué de tes frères et tes sœurs, tu vas te reposer de leur lassitude dans ton chalet. Non, ce n'est pas ça qui intéresse. Jésus leur parle pendant 40 jours. Pendant tout le temps, il a été avec eux. Après sa résurrection, ce dont il va leur parler, c'est du règne. Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pourquoi? Même parce que Jésus, quand il les a envoyés, il va leur dire quoi? Dites aux gens que vous allez rencontrer que le royaume de Dieu a fait quoi? S'est approché de vous. C'est le but de la venue de Jésus sur la terre. Et quand on parle du règne, frères et sœurs, le règne se manifeste à deux niveaux dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est la question que je laisse sur le cœur de chacun d'entre nous. Est-ce que Jésus est seulement pour nous un sauveur? Ou est-ce qu'il est sauveur et Seigneur? On peut avoir Jésus juste pour sauveur. Parce que Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus qui règne dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que Jésus est pour nous un simple sauveur ou il est sauveur et Seigneur? À chacun de répondre cette question. De répondre à cette question, à chacun. Dieu doit régner sur nous afin que nous soyons des instruments pour Dieu, pour apporter le règne de Dieu à ceux et à celles qui ne le connaissent pas encore. Le but de Dieu, c'est cela. Est-ce que Christ règne réellement en nous? Est-ce que nous sommes vraiment des ambassadeurs du royaume? La Bible nous dit, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit quoi en ce qui concerne le royaume? C'est là où il y a la définition du royaume. Il dit, le royaume, ce n'est pas le manger, ni le... Ah, mais c'est quoi le royaume? La justice, la paix et la joie. Par le... Est-ce que tu es ambassadeur de la justice de Dieu? Est-ce que tu es ambassadeur de la paix? Est-ce que tu es ambassadeur de la joie? C'est cela qui compte, frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus a passé du temps avec ses disciples avant de les quitter. Il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus nous parle de ces choses? Pourquoi il y a des priorités? Parce qu'il sait, comme il nous l'a dit dans Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton. Donc tes priorités, tu les définis. Moi, mon frère, ma sœur, je les définis en fonction de quoi? De mes inquiétudes et de mes préoccupations. C'est ça qui nous permet de définir nos priorités. Alors, si nos préoccupations, c'est de faire en sorte que le royaume de Dieu soit réel dans notre vie, que le règne de Dieu soit réel, que la justice de Dieu soit notre préoccupation en ce moment-là, nous sommes sur la même longueur d'onde que Christ. Mais si c'est d'abord les choses de ce monde, frères et sœurs, on aura beau les avoir, nous n'aurons jamais de satisfaction, nous n'aurons jamais la joie. Frères et sœurs, le travail est utile, mais si on place le travail au-dessus de Dieu, moi je ne place pas le fait d'être pasteur au-dessus de Dieu, c'est impossible. C'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. La vie de famille est excellente. Mais si on place sa vie de famille avant Dieu, Dieu dit, tu m'as rétrogradé. Je veux remonter à ma place. Les enfants sont utiles. Les enfants, c'est bien. On les aime. Mais si on place ses enfants au-dessus de Dieu, déjà, ça devient une idole. Dieu nous dit, attention, frères et sœurs. Ce que je vous dis là, c'est Dieu qui nous bénit de toutes ces choses. Mais Dieu nous dit, attention, ne placez pas ce que je vous donne comme bénédiction au-dessus de lui qui est le bienfaiteur. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, que chacun s'examine ce matin pour entrer véritablement, Seigneur mon Dieu, dans ces priorités que tu as dégagées expressément pour chacun d'entre nous. Béni soit ton nom. Loué sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle.